Vous vous apprêtez à écouter C'est quoi le rapport ? Tout au long de cette aventure, on vous invite à nous transmettre vos remarques, vos questions ou désaccords afin qu'on puisse les prendre en compte pour une discussion au 8e épisode qui fermera ce premier cycle de podcast. On vous souhaite une bonne écoute.
Second souffle,
un méta-réseau
pour le déploiement
de l'éthique en société.
Cherchons ensemble, si vous voulez, les lois de la société et le mode dont ces lois se réalisent. Après avoir démoli tous les dogmatismes a priori, ne nous posons pas en apôtres d'une nouvelle religion. Accueillons, encourageons toutes les protestations. Flétrissons toutes les exclusions, tous les mysticismes. Ne regardons jamais une question comme épuisée.
Second souffle, un collectif libertaire
et anti-agiste.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast C'est quoi le rapport, podcast de Second Souffle, où on parle de nos questions sur la pédagogie et la philosophie. Merci à Studio Zef, une radio associative basée à Blois qui nous prête le matériel, et merci aussi à l'association éducative de la Butte qui nous accueille et nous permet d'être assis ici à 5 autour d'une table au frais dans une grange. Je suis accompagné aujourd'hui encore par Augustin, Thomas, Raph et Roman, et on va parler aujourd'hui de, et c'est dans le titre, la question du rapport. Est-ce que, Raph, tu pourrais expliquer comment tu utilises ce mot ?
Ce mot, je l'ai découvert il y a quelques années en lisant une brochure qui s'appelait Rupture, qui s'appelle Rupture, qui a été écrite par Simon, et dans laquelle il distingue, découpe la relation. Il dit qu'une relation, c'est complexe, mais qu'à l'intérieur, il y a des liens et des rapports. Et dans le lien, il met tout ce qui est de l'ordre de l'affection, de comment on se connaît, on se fait confiance, tout ça. Et de l'autre côté de la relation, il y a les rapports qui sont plus de l'ordre des mécanismes, des dispositifs de sociétaux dans lesquels chacun et chacune évolue. Et donc, en fait, selon la situation et selon qui on est en arrivant dans cette situation, au moment où on relationne avec quelqu'un, il y a un rapport qui peut être présent et il est plus ou moins fort. Et dans la brochure, il prend l'exemple de si on est au travail, en fait, avec son patron, on peut très bien avoir une bonne relation, dans le sens où on a un lien, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rapport à ce moment-là, parce qu'on a un rapport d'employé à patron, quoi.
Et dans la brochure, il parle de relations qui sont basées sur des purs rapports et d'autres des purs liens. Je suis en désaccord par rapport à ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton point de vue sur cette question-là ? Est-ce que les relations se basent soit sur des purs liens ou soit sur des purs rapports, ou est-ce que c'est toujours l'un et l'autre ?
Bah, moi, j'ai l'impression que non. Mais si on dit que c'est pur lien, ça veut dire qu'il n'existe pas de rapport. Enfin, qu'il existe des relations où il n'y a aucun rapport entre les personnes, alors qu'en fait, il en existe toujours un de par les représentations qu'on a de l'autre au moment où on interagit, comment l'autre nous perçoit, qui on est. Enfin, pour moi, le pur lien n'existe pas, et le pur rapport non plus. Je vois pas comment ça pourrait exister.
Est-ce que tu as une situation, un exemple que tu as vécu qui nous permettrait de comprendre un petit peu ça, alors soit toi, soit quelqu'un d'autre. Mais ça me semblerait intéressant pour essayer de comprendre en quoi ta situation à toi t'a permis de comprendre à un moment qu'il y avait toujours un rapport dans les relations.
Je dirais là où on a l'impression qu'il pourrait ne pas y avoir de rapport du tout, je sais pas, ce serait dans une relation amicale de longue date. On se connaît très bien, on a des liens très forts, et du coup on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de rapport, alors qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'il y en aura toujours un. Je sais pas, si on prend l'exemple de nous deux, Thomas, on se connaît depuis 5 ans, on a des liens très forts, j'ai l'impression, on peut le dire. Et pourtant, en fait, il existe quand même un rapport entre nous deux, et du coup, on peut pas dire le lien est très fort, donc le rapport n'existe pas. Moi, j'ai l'impression qu'il existe un rapport entre nous deux, et alors je me dis pas, c'est dommage quand même qu'il existe ce rapport. Enfin, c'est un fait, et du coup, il faut le prendre en compte, l'accepter, et pas le nier, en fait, parce que le nier, il y aura un danger de se dire, on est à égalité, on est dans une relation très forte, avec un lien très fort, et du coup, en vrai, je pense pas qu'il existe de rapport, bon, enfin, et en fait, on se prive d'une connaissance qui nous permettrait d'avoir une relation plus saine, plus juste, plus...
Du coup, sur cette question-là, pour préciser le rapport que je vois avec toi, vu que tu l'abordes, J'ai l'impression qu'au début, on avait un rapport donc très dissymétrique lié au fait qu'il y avait un stagiaire et un formateur dans un espace d'animation volontaire. Ce rapport a été construit et basé là-dessus. Nos liens ont évolué. C'est grâce à la qualité de nos liens et à la façon dont on les a questionnés, dont on les a travaillés, en fait, ces liens-là, et que ça a influé pour que nos rapports puissent changer et puissent, à certains moments... Enfin, par exemple, sur certains sujets, je me sens apprenant vis-à-vis de toi. J'ai l'impression que sur d'autres sujets, j'ai l'impression que tu acceptes très facilement le fait que je puisse être quelqu'un de moteur ou quelque chose comme ça, quoi. Mmh. Et que du coup, j'ai l'impression que grâce à la réflexion qu'on a sur les liens, ça nous a permis de travailler la question des rapports et du coup d'avoir des rapports de plus en plus adéquats en fonction des situations, de les faire bouger et de ne pas rester figé autour d'un seul rapport.
Qui serait problématique
à ce moment-là parce que ce serait un rapport de domination, par exemple.
Est-ce que vous auriez un exemple d'un rapport qui changerait pas, un rapport fixe entre deux personnes?
Un rapport qui changerait pas, fixe?
Ouais.
Ah, moi, j'en ai un, mais du coup, il est un peu problématique parce que c'est souvent des choses où il va y avoir beaucoup de liens, beaucoup d'affection. C'est la question familiale. Mmh. Où moi, j'ai des parents qui sont pas ouverts forcément beaucoup, en tout cas dans leur relation avec moi, aux questions de pédagogie, d'éthique, et où c'est des espaces de... Le questionnement de comment est-ce qu'on existe ensemble est difficile, voire impossible, et refusé parfois de manière ostentatoire, et où le lien peut évoluer, et de fait il évolue, mais le rapport continue d'exister, c'est un rapport de parent-enfant, quel que soit l'âge que je puisse gagner, quelle que soit la validité par mes actions ou ma manière de vivre qui puisse évoluer, le rapport reste quasiment le même et où j'ai pas la sensation qu'il change, et où en tout cas pour moi, encore une fois, la conversation sur ces sujets-là avec eux est impossible aujourd'hui, en tout cas m'est impossible aujourd'hui. Et du coup, ma perception du rapport, la manière dont la relation est structurée dans quelque chose qui n'est pas du mien, n'évolue pas pour moi.
Mmh. Bah, c'est lié à ton statut perçu, quoi. Il y a des statuts qui te collent à la peau et qui restent, quoi, dans ces rapports-là.
Ouais. Et tu parles de statut d'enfant, là ?
Oui, voilà, ouais, par exemple.
Tu
resteras mon fils, mais du coup, je resterai la personne qui doit t'apprendre des choses et qui est au-dessus de toi, quoi. Et ça peut être difficile d'être écouté en tant que personne qui peut avoir un avis sur des sujets autant que tes parents, quoi.
Est-ce que c'est un rapport que toi-même tu vis ou est-ce que c'est...
Ah oui, oui, moi, mes parents, enfin, je crois qu'il y a plein de domaines où ils considèrent que je sais moins bien parce que j'ai moins d'expérience, j'en sais rien, que je suis une fille, voilà, encore plein de choses comme ça, quoi. Que mon propos ne peut pas être valide, oui. Quoi.
Audible.
Audible, ouais, audible.
Carrément. Tu posais la question, Augustin, est-ce qu'il y a des rapports qui restent? Je pense qu'il y a aussi des situations. En fait, on est situé chacun et je pense que ce serait intéressant qu'on parle plus précisément de comment on se situe, nous, puisque en fait, c'est pas que ça bouge pas, mais c'est que c'est extrêmement déterminant sur les rapports qu'on construit avec les autres personnes en fonction de comment nous on se situe et comment les gens avec qui on interagit se situent elles-mêmes aussi. Et donc, c'est important qu'on se situe, nous.
Oui, du coup, l'exercice de décrire sa situation, c'est un exercice que personnellement, moi, je trouve difficile parce que, d'une part, c'est un fouillis terrible. Je vais utiliser un concept qui est le concept de déterminisme que moi, je prends de l'angle depuis la sociologie. Du coup, les influences, les informations, les structures qui vont pouvoir m'être transmises par le contact humain et du coup par les personnes qui ont fait mon éducation. Et aujourd'hui, faire un choix d'observer, de faire attention au déterminisme qui me font aujourd'hui, qui font ma manière d'agir, c'est une question qui est importante parce que je ne veux pas les passer sous silence, pas me mettre d'étiquettes, parce qu'effectivement, on a parlé de notion de statut et puis de situation, et des étiquettes, je vais en mettre sur moi-même. La perspective pour moi, elle est que ces étiquettes ne m'enferment pas, mais pour ça, il est nécessaire, de mon point de vue en tout cas, ce que je me propose de faire, c'est de les nommer pour en prendre conscience et pouvoir les travailler. Du coup, moi qui suis Gaston, j'ai parlé du fait que j'étais militant, qui est une étiquette en tant que telle, où j'ai une envie de participer à la transformation d'une société parce que je ne suis pas satisfait de son organisation actuelle. Il se trouve que j'arrive dans cette définition-là, dans cette situation-là, par tout un parcours militant que j'ai pu avoir depuis un certain nombre d'années, mais aussi par une position d'intellectuel bourgeois, où j'ai été élevé dans une famille où c'était quelque chose qui était considéré comme étant bon et comme étant souhaitable, et une certaine manière d'être intellectuel, une certaine manière d'être bourgeois, qui du coup vont informer aujourd'hui ma manière d'être. La manière dont je me suis construit en tant qu'intellectuel, c'est en tant qu'étudiant en sciences humaines et sociales, où j'ai eu la chance de toucher à un peu tout, mais particulièrement à la sociologie et à deux domaines de psychologie que sont la psychologie clinique et la psychologie sociale, avec aujourd'hui l'information supplémentaire des questions libertaires et anarchistes d'éducation populaire dans ma manière d'être intellectuel. Je suis aussi, du coup, parallèle à ça, blanc, de famille française, un homme, de pratique hétérosexuelle, mais qui aujourd'hui a l'opportunité de se poser la question des questions queer, et j'en remercie toutes les personnes qui ont fait le travail qui me permet aujourd'hui de le faire et les personnes qui m'y accueillent. C'est pas du tout un travail que je pourrais faire tout seul. Du coup, cisgenre et neuroatypique, au sens où j'observe que de manière jusqu'à présent plutôt en dehors de mon contrôle et malgré mon environnement, j'ai développé un langage personnel, un rapport au monde et des manières de réfléchir qui ne sont pas celles des personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'évoluer jusqu'à présent.
Est-ce que tu peux juste rapidement définir cisgenre, que ce soit quelque chose de communément compris?
Alors moi, c'est assez rigolo parce que pour moi, c'est une source d'humour que cette expression, parce que ça renvoie, pour moi en tout cas, à la question de l'orientation des molécules, qui sont soit cis, soit trans. Mais du coup, ça renvoie, dans la définition qu'on en fait du coup sur les questions d'identité, à la correspondance entre l'identité de genre perçue par la personne au moment où elle se conçoit, au moment où elle se considère, au moment où elle fait attention à elle, et la manière dont la société souhaite qu'elle s'identifie, à partir des normes binaires de la société occidentale, qui sont du coup les deux genres, homme-femme, et où, dans le cas où il y a une correspondance entre cette identité reçue et cette identité sociale, c'est nommé une identité cis, du coup un homme ou une femme cis, qui se ressent homme et qui est appelé homme, ou qui se ressent femme et qui est appelé femme. Et du coup, les identités trans qui vont, de ce que j'en sais, il en existe un certain nombre, mais qui en tout cas vont ne pas avoir de cohérence entre ces deux identités. Donc aujourd'hui, commence à y avoir une acceptation culturelle du fait qu'on puisse avoir des femmes trans qui sont du coup des personnes qui se sentent femmes et qui ont été assignées hommes auparavant dans leur vie, et le symétrique, du coup, des hommes trans qui se sentent hommes et qui ont été assignés femmes auparavant dans leur vie.
Et par rapport à ce que tu disais, est-ce que t'as envie d'échanger à propos d'une situation que t'aurais vécue et qui mettrait un petit peu... Enfin, qui nous donnerait à penser les rapports et les liens qui l'ont défini à un moment et quelque chose sur lequel on pourrait s'identifier ou non ?
Du coup, une espèce d'illustration d'un des déterminismes que je viens de nommer, j'en ai un que j'utilise assez régulièrement parce que c'est quelque chose qui m'interroge aujourd'hui. Quand je dis que je suis bourgeois, ça renvoie à un certain nombre de notions par rapport à des perceptions du réel, particulièrement par rapport à la manière dont je vais me comporter en groupe, et en plus dans des situations où je vais avoir un statut de formateur ou d'accompagnant. Je viens d'une famille bourgeoise qui a comme code de bourgeoisie des codes par rapport aux émotions, qui sont mal vus, mal venus, et où il s'agit de ne pas être passionné. Même quand on est particulièrement enthousiaste, que ce soit dans les deux sens, il s'agit d'avoir une forme de bienséance. Donc d'avoir une espèce de pudeur par rapport à ces émotions, c'est quelque chose qui a organisé ma vie jusqu'à présent, et je pense d'une manière que vous pouvez imaginer, où il ne s'agissait pas que j'ai des émotions trop fortes, ou quand elles sortaient, elles étaient complètement désorganisées, parce que je n'ai pas eu une éducation d'intelligence émotionnelle qui me permette de faire face à des émotions qui soient trop violentes, parce qu'en fait, elles étaient même interdites, il s'agissait de se cacher de manière à ne pas les avoir.
Sous peine d'être déclassé.
Sous peine d'être déclassé, d'être délégitimé, et ça informe... la manière dont je me comporte aujourd'hui, la manière dont je construis mes rapports, mes relations avec les gens, dans le sens où un trop-plein d'émotions me met mal à l'aise et je ne sais pas comment y réagir, trop-plein dans les deux sens, que ça vienne des autres ou que ça vienne de moi, il s'agit de les exprimer avec une timidité nécessaire. Voilà. J'espère que ça vous permet de saisir un peu ce que j'entends par bourgeoisie sur les questions des émotions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite ? Roman, si tu veux peut-être présenter un peu ta situation, la manière dont...
Oui. Moi, mes parents sont propriétaires de leur maison en banlieue parisienne, donc quand même avec un capital économique. Et je rebondis un peu ce que tu disais sur les émotions. Moi, j'ai l'impression que, par contre, dans mon milieu familial, en fait, c'est plus des émotions vulnérables. Ça, il faut les cacher. Par contre, les hommes, ça, c'est quand même OK de montrer des émotions, d'énervement, enfin que c'est plutôt, enfin ça faisait partie des choses qui sont totalement OK et qu'on valide limite. Ça, c'est par contre. Enfin, ouais, non. Et vulnérable et colère pour les femmes, ça, ça marche pas, quoi. Mais énervement pour les hommes, ça marche. Pas vulnérable non plus.
Moi, j'ai bien envie de me situer et de donner un exemple dans la foulée. Du coup, je suis aussi donc, un homme blanc, cisgenre. Je suis assez valide intellectuellement parlant. Donc, au final, je crois ne pas avoir trop vécu d'oppression dans ma vie. Et de fait, ça définit les rapports que j'ai avec les autres. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, l'exemple plus concret que j'ai à donner, c'est celui qui définit les rapports de séduction que j'ai pu avoir avec des personnes. J'en étais pas hyper conscient avant de sortir des études, du lycée, etc. J'avais été une fois en couple, j'avais pas beaucoup réfléchi à la question de l'amour, etc. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était pas si difficile pour moi, en tout cas, d'élaborer des rapports de séduction rendre quelqu'un amoureux de moi. Mais je le conscientisais pas du tout, vraiment pas. J'ai pratiqué et c'est bien plus tard, je pense bien 4-5 ans après, que je me suis rendu compte, mais en fait, tiens, j'ai des conditions qui me permettent d'être dominant dans des rapports de séduction. Ça a été un peu bizarre de le comprendre, à me dire, bah, ok, il faut travailler sur cette question-là. Et donc, j'ai essayé de le faire avec le plus de force possible, avec le plus d'aide et d'accompagnement possible, avec les copains, copines qui réfléchissent sur ces questions philo, etc. Et donc, l'idée actuellement dans la question des rapports et des liens, par exemple, ça me semble hyper nécessaire de conscientiser, pour revenir sur un truc que Gaston a abordé plus tôt, de conscientiser ma situation. Par exemple, et je me répète aujourd'hui, je suis un homme blanc dans une société patriarcale et que c'est possible pour moi d'être dans un rapport de domination et il faut que je l'intellectualise de manière presque permanente pour que j'évite en fait ces rapports de domination. Donc c'est devenu de plus en plus automatique maintenant, c'est bien plus facile pour moi. Mais c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose de très important à comprendre quels sont les rapports qui régissent nos relations, de sorte à agir sur les liens qui nous unissent avec les personnes. Et je me rends compte que j'ai des liens de bien plus grande qualité depuis que j'ai conscientisé ce rapport et que j'essaye de l'améliorer, d'améliorer mon rapport pour que je ne sois plus dans un rapport de domination que je ne comprenais même pas, que je faisais de manière presque automatique. Et depuis que je le conscientise, j'ai vraiment le sentiment que les relations que j'ai pu développer désormais sont bien plus riches également pour moi. C'est là où je me retrouve et que je fais le lien avec le premier épisode, hein, que j'apprends des choses bien plus maintenant, que ce soit dans des relations amicales ou amoureuses, alors que dans mes anciennes relations, finalement, je crois que j'étais bien plus dans une posture de sachant que d'apprenant, émotionnellement parlant par exemple.
Mais c'est intéressant comment, en fait, là, la question du lien et du rapport s'articule. C'est pas, on n'est pas dans une binarité, le lien c'est bien, le rapport c'est mal. C'est plus questionner les interactions qu'ils ont pour arriver finalement à une relation qui nous convienne. Mmh. Moi, je trouve ça intéressant. Ça, ouais.
Et tu veux peut-être te situer, Raph ?
Ouais. Alors, moi, c'est Raph, je suis un homme blanc cisgenre, majeur depuis 9 ans. Puis je suis, je me considère comme neuroatypique. Je reviendrai dessus juste après. Je suis d'origine prolo. Ma mère est ouvrière, mon père est agent de sécurité. Je considère que j'ai une sorte de migration sociale, même si je suis toujours prolo. Je suis dans une autre forme de, enfin, je peux pas vraiment me considérer comme de la même classe que mes parents. Puisque j'ai acquis dans les hasards de mon parcours, enfin pas si hasardeux, on est déterministe, donc voilà, de par les particularités de mon parcours, j'ai acquis un certain capital culturel et social, et du coup, voilà, c'est une position un peu particulière, et je me considère aussi comme militant de l'éduc pop et militant anarchiste. J'ai envie de parler du moment où j'ai senti, où je me suis identifié comme neuroatypique. C'est quand j'ai compris en fait que j'avais une représentation du monde et que j'avais du mal à
que j'étais parfois en difficulté pour interagir avec d'autres personnes en ne comprenant pas la manière dont elle percevait le monde. Et ça crée des relations qui sont assez étranges, dans le sens où ça me met des fois dans des situations où, dans certaines situations, je suis dominant et dans certaines situations, je suis en invalidité et du coup, je me considère comme opprimé. C'est assez bizarre. Je vais prendre un exemple très vite fait pour illustrer. C'est que dans certaines situations sociales, je ne vais pas comprendre les interactions, je ne vais pas comprendre les enjeux, les codes, ou alors
les
je vais
rapports.
Devoir. C'est ça. Je vais devoir fournir beaucoup plus d'énergie pour que la moyenne des gens pour comprendre ce qui est en train de se dérouler et agir adéquatement, sous peine de punition sociale, d'exclusion, d'angoisse, de plein de trucs, quoi. Et d'un autre côté, dans certaines situations sociales, j'ai l'impression d'être en survalidité et d'être un peu potentiellement oppresseur. Ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais stagiaire BFD. Donc en fait, j'étais dans un stage où j'apprenais à être directeur dans de l'animation volontaire. Et où il y a quelqu'un qui m'a dit, dans un moment informel, « C'est très intéressant ce que tu dis, mais je ne comprends pas tout. » Et où en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire vivre une violence, une sorte de violence symbolique, telle que je peux la vivre en tant que violence de classe. Ça arrive que je subisse de la violence de classe en tant que prolétaire, mais je peux la faire vivre à quelqu'un sous forme de violence symbolique intellectuelle un peu. Et c'est pour ça que, en fait... Cette détermination, elle importe beaucoup pour moi parce qu'elle crée des situations où je suis parfois dominant, parfois dominé, et où en fait c'est très complexe à explorer. Et la question du rapport que j'entretiens avec la personne, elle est très importante pour que je puisse agir adéquatement, avoir une posture qui me convienne.
Tu as parlé deux fois de violence symbolique. Est-ce que tu aurais envie de le définir ? Enfin, je te le demande, ouais. Est-ce que tu peux le définir ou pas ?
Pas exactement. Enfin, en fait, je ne connais pas la définition exacte parce que c'est un concept créé par Pierre Bourdieu, un sociologue. Donc, je ne serais pas capable de redonner la définition telle que lui la donne en tant que créateur. Mais je vais essayer de faire une approximation. Puis peut-être qu'on donnera la définition précise au prochain épisode. Je dirais que c'est quand un dominant, de par sa position de dominant, fait vivre une violence invisible en faisant comprendre au dominé que c'est sa vision du monde qui prévaut, qui est la plus valable, qui est la plus légitime, et où en fait il y a une forme de violence dans le vécu qu'a la personne dominée, quoi.
Tu parles d'éventuellement y revenir sur le prochain épisode, ça tombe bien, on va clore celui-ci. On avait dit précédemment qu'on expliquerait un petit peu les configurations de ce podcast-là, on s'est situé pendant cet épisode. Gaston, tu avais envie d'en parler un petit peu ?
Oui, merci Thomas. Oui, du coup, c'est peut-être simplement dire trois mots sur le podcast, c'est quoi le rapport ? C'est un projet qui du coup a débuté au sein de Second Souffle sur des discussions qui faisaient se poser des questions ensemble de pédagogie et de politique et de pratiques militantes. Et il s'est trouvé que les gens qui sont ici présents autour de la table étaient ceux qui étaient grosso modo présents autour de la table au moment où ces questions se sont posées. Quand on a informé du fait qu'on voulait avoir une conversation enregistrée, qu'on voulait proposer vers l'extérieur en dehors de Second Souffle au sein du méta-réseau, on est les seuls à avoir réagi. On a conscience que les gens qui sont présents autour de la table aujourd'hui sont des gens qui ont certains privilèges qui sont les leurs, et que c'est depuis cette situation qu'on s'exprime chacun. On a conscience du fait que ces privilèges viennent d'une manière dont la société est organisée, d'une culture qui produit la manière dont notre collectif existe aujourd'hui, que les questions d'accès à la production, d'accès à la réflexion et de visibilité, c'est des questions qui sont influencées par ces questions de privilèges, et qu'il y a un travail aujourd'hui qui est en cours au sein de Second Souffle pour essayer de réduire les inégalités qui sont présentes au sein de Second Souffle, et que c'est un travail qui est initié, qui est en cours et qui n'est pas fini. On souhaite que d'autres personnes nous rejoignent à la table, on a hâte que ça puisse arriver. On vous invite à nous faire signe si vous voulez rejoindre la conversation. Et on vous accompagnera avec plaisir dans le fait de pouvoir venir participer avec nous à ces conversations-là.
Merci. Tout au long de cet épisode, on a parlé de nos situations, on a essayé de comprendre quel est le lien entre nos situations et justement les rapports, les relations qu'on peut déployer tout au long de notre existence. Évidemment, ça nous semble très interconnecté avec la question de la posture. On va creuser cette question progressivement. D'ailleurs, le prochain épisode sera tourné sur la question de l'apprentissage, de l'apprendre. On a un philosophe qu'on aime bien, Gilles Deleuze, qui a dit « apprendre, c'est organiser la rencontre ». On va venir la décortiquer un petit peu, cette phrase, la comprendre, voir en quoi la question de l'apprentissage et de l'apprendre, ça a un lien avec la manière dont on déploie des relations, dont elles régissent même parfois les interactions qu'on vit. C'était « C'est quoi le rapport ?», donc podcast de Second Souffle. On vous dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Salut tout le monde.
Au revoir. Salut. Bisous.
Second souffle,
un méta-réseau
pour le déploiement
de l'éthique en société.
Apprendre, c'est organiser la rencontre. Second souffle, un collectif libertaire
et anti-agiste.